On va pouvoir commencer ? Allons-y !
Les néo-ruraux.
Ah, ce qui s'est passé en 70, ce serait beaucoup plus possible aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de frappadingues qui veulent s'installer comme nous.
Je crois que jusqu'à notre retraite, nous serons des néo-ruraux. Et évidemment, on a cette étiquette, bon, on va l'assumer. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème.
Que l'a-t-on ridiculisé ? Les premiers néo-ruraux, qualifiés de zippies ou de bourrus, parce qu'ils avaient plein de poils, ils étaient assez nombreux dans les années qui ont suivi 1968 à vivre en communauté. 5 à 10 000 l'hiver, bien davantage l'été, 30 à 50 000. Évidemment, la plupart n'ont pas tenu longtemps, mais certains se sont accrochés. Ils se sont alors inquiétés de la relève. On entendait Catherine et Pierre Mellet à La Boule en Ardèche. Mais une autre vague, en 75-85 et en 85-95, une autre encore, se sont surajoutées à ce qui subsistait de la première. Les nouveaux venus n'imaginaient plus nécessairement vivre à la terre. Ils entendaient continuer, parfois, d'exercer leur métier à la campagne. Mais comme leurs prédécesseurs, ils donnaient à voir un autre mode de vie. Donner à voir un autre mode de vie. La fonction anticipatrice des néo-ruraux est là. Leur utopie de départ s'est épuisée, elle s'est déplacée. Ils sont devenus des éléments décisifs de la politique de sauvetage d'une part de la France que d'autres acteurs, institutionnels ou sociaux, laisseraient volontiers s'enfoncer dans le vide. Ils témoignent d'une agriculture qui serait autre chose qu'une branche de l'industrie agroalimentaire. Plus généralement, ils témoignent d'une modernité qui, comment dire, serait plus douce, évidemment. Se prononcer ainsi, c'est s'exposer à la critique des gens qui calculent sérieusement, comme ce candidat à la présidentielle qui ne manque jamais l'occasion de se moquer des consommateurs qui, insouciants, légers, font danser l'anse de leur panier en osier, plein de produits des AMAP, je cite Nicolas Sarkozy. Les néo-ruraux assument, moquer dès le départ, quels qu'aient pu être leurs apports, ils s'attendent à être critiqués jusqu'au bout.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Catherine Rouvière, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous avez publié aux presses universitaires de Rennes, même si vous n'y parlez pas beaucoup, de la Bretagne, Retourner à la Terre, l'utopie néo-rurale en Ardèche, parce que vous êtes une ardéchoise, cœur fidèle.
Voilà, j'ai des attaches familiales en Ardèche des deux côtés. Moi-même, je n'y ai jamais vécu, puisque mes parents ont fait partie de cette vague d'exode rural. Et donc, j'ai passé des vacances chez mes grands-parents, qui étaient paysans dans le sud de l'Ardèche, à 25 kilomètres au sud d'Aubenas, et pas très loin d'Evance.
Et vous avez vu arriver une première communauté dans les années 1970. Il est vrai que votre département a de puissants attraits.
Oui,
géographique,
oui.
Esthétique.
Oui, voilà, il y a effectivement beaucoup de ces néo-ruraux qui se sont installés à partir de 68, mais on compte une première communauté dès 1967 à Rochebest, dans la partie donc des sud-ouest de l'Ardèche, des Pentes, un peu au nord de la partie Cévenole, et puis quelques évidemment précurseurs comme Pierre Rabhi qu'on a pu entendre sur votre antenne ce matin, mais évidemment, ces néo-ruraux ont été souvent fascinés par le paysage assez sauvage, hein, ces vallées étroites, encaissées de l'Ardèche, qui à l'époque étaient sur le plan touristique quasiment une friche, comme le décrit une journaliste du Figaro de l'époque. Et donc c'est un département qui est assez enclavé et donc beaucoup moins traversé par les flux touristiques de l'époque.
C'est le premier département à ne plus avoir de gare de voyageurs.
Alors effectivement, voilà, effectivement, ouais. C'est aujourd'hui le seul département encore, donc à ne pas avoir de train de voyageurs.
C'est l'Ardèche de Jean Ferrat qui s'est installé à dans ces années-là, qui attire le plus.
Voilà, tout à fait. Alors évidemment, l'Ardèche a été connue à partir de 64 par l'installation de Jean Ferrat qui a écrit, composé sa fameuse chanson La Montagne, à Entraigues sur Volane, dans cette région des Pentes. Mais donc on a effectivement un premier ancrage dans ces autour de ces villages où s'installent des artistes. Et ça a été déjà le cas dans la décennie précédente, dans le plateau du Bas-Vivarais calcaire, d'Alba la Romaine, qui a attiré un grand nombre de peintres avec un appel lancé par le peintre André Lhote en 1948 dans le journal Combat. qui a fait venir donc une trentaine de peintres du monde entier, un certain venant d'Argentine, pour relever les ruines du village.
Alors c'est des nouveaux artistes qui viennent après 1968, après l'échec politique de 1968, on les appelle les hippies dans le pays quand ils surviennent. Témoignage, Martine Larive, c'est au micro de Marie-Claire Schaeffer, Ligne de vie.
Quand j'ai décidé de partir, que je reprendrai pas l'enseignement à la rentrée, j'étais extrêmement heureuse, je me suis sentie libre. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie très libre. Puis je suis partie aussi parce que j'étais amoureuse de quelqu'un. Lui, c'était pour moi un peu un modèle, l'exemple même du révolté, quoi. Bon, bien sûr, c'était une image romantique, un peu à la Rimbaud, mais... Bon, c'était un Mao qui avait incendié les camions Citroën et donc il s'était retrouvé en tôle. Et après, bon, il a tout quitté, il est parti sur le Larzac, vivre à la campagne, dans les fermes. Et... Moi, ça me semblait être vraiment la vraie vie, ça, la révolte pure. C'était une rupture complète avec la société de consommation, avec une idée de travail régulier, vivre autrement, avoir d'autres rapports entre les gens, d'autres rapports aussi hommes-femmes. Il y avait toutes ces idées-là aussi dans l'air de... Et j'avais des copains qui nous demandaient, enfin des enfants de copains qui disaient « Mais quand est-ce que vous avez arrêté d'être hippie ?» Et en réfléchissant, j'ai dit « Mais avec l'arrivée des enfants... »
On parlera des enfants, c'est une question fondamentale un peu plus tard. Mais d'abord, cette idée de faire tomber la foudre sur les normes.
Oui, alors cette idée, donc, elle est effectivement extrêmement puissante au moment de l'installation de la première vague post-68arde, après l'échec de mai 68 à prendre le pouvoir par le haut. Il y a cette idée de transformer la société par la base, en expérimentant soi-même la société qu'on souhaiterait créer par la suite. Donc il s'agit de réinventer la vie quotidienne.
Vous pouvez raconter comment, petite fille, vous avez observé tout ça. Vous ne saviez pas que vous alliez devenir une enseignante, que vous feriez votre thèse sur le sujet. Vous voyez cette dame qui avait, elle, été enseignante aussi, d'autres qui avaient toutes sortes de métiers, parfois enfants d'agriculteurs, mais en général plutôt citadins. Comment ils étaient physiquement ?
C'est évidemment l'apparence physique était très différente, avec beaucoup de jupes longues, de cheveux longs, barbe pour les hommes. Donc ils les faisaient qualifier justement de bourrus ou de chevelus.
Bourrus, c'est poilu.
Bourrus pour poilu. De bijoux, d'accessoires empruntés à différentes cultures, aussi bien d'Asie que d'Amérique latine. Donc des choses très...
Ça a dû être fondateur Ça a dû être fondateur pour vous, cette expérience, non ? De voir ces gens qui ne travaillaient pas de leurs mains, comme les paysans qui étaient vos grands-parents, ou qui travaillaient peu de leurs mains.
C'était très très intriguant, effectivement, par leur allure, leur mode de vie différent. Ils s'étaient installés dans une communauté au fond du village, dans une grande maison bourgeoise. Et je me souviens notamment que dans cette communauté, donc, il y avait une Suédoise qui avait écrit sur un panneau, dans un tournant, « Attention, petits enfants partout ». Et justement, il y avait une espèce de frontière un peu invisible entre la population locale et cette nouvelle population, cette frontière finalement du genre de vie qu'on n'osait pas, en tant qu'enfant, on n'osait pas franchir parce qu'évidemment, on entendait beaucoup de choses se dire côté de la population locale.
Depuis, vous avez eu accès aux archives de la gendarmerie ?
Oui, tout à
Alors,
fait.
Alors, qu'est-ce
oui.
qu'elles disent de la vie régulière, quotidienne des communautés ?
Ce sont des archives donc qui font un peu des synthèses, des conversations que les gendarmes ont pu avoir au fil de leur visite sur les motivations de ces néo-ruraux qui font compte rendu aussi.
Ils sont observés
aussi,
très près.
Voilà,
quand même.
Qui font le compte rendu aussi de des heures passées à les observer.
Mais enfin, ça répond à des questions du genre, pardonnez-moi, qui baise à Rochebesse, la communauté. priorité numéro un.
Oui, voilà, on décrit les modes de vie. Donc, effectivement, il y a les gendarmes sont très au fait de qui sont constitués les couples, qui est enceinte de qui, etc. Et donc, l'objectif était de surveiller justement les mouvements révolutionnaires de l'époque.
Dans le rôle non pas de gendarme, mais il l'assume pourtant traditionnellement. Voilà. Galabru et Prébois, d'abord dans un film de Lautner, ce sont des paysans méridionaux.
Bah, ces hippies sont dans le champ, il faudrait pas voir.
Ils sont capables de tout. Et c'est planter du hashish dans votre champ.
Quoi?
Du hashish. Ils s'installent dans un champ et ils font leur petit carré de hashish. On lit ça tous les jours dans les journaux.
Ah bon? Oui. Et ça pousse facilement.
Je vous demande pardon?
J'ai jamais réussi à rien faire pousser dans ce champ. J'ai essayé le blé, le maïs, même la betterave. Ça rapporte de la chiche.
50 prisons minimum.
Ah oui? Ben je vais te les foutre dehors, moi!
Eh ben bon débarras!
En tout cas, pas de hippies sur le territoire de la commune. C'est pas Katmandou, ici.
Bravo!
Heureusement, c'est peut-être dommage. Il y a des touristes à Katmandou.
Un Ardéchois qui aurait eu une maison, qu'il aurait quitté pour aller vivre à Lyon. Et puis, 5 ans après, 10 ans après, la maison, il sait peut-être même plus qu'elle lui appartient. Un jour, il découvre ça, il s'aperçoit que ça vaut des sous. Il vient te réclamer quoi? Il vient te réclamer ce qui, en fait, t'appartient. Ça t'appartient parce que c'est ton travail, parce que t'as arraché les genêts. T'as fait cette terre, t'as planté, t'as mis du fumier, t'as fait les chèvres, t'as fait les tomes. J'en ai fait plus que le gars qui habite à Lyon et qui vient me dire 5 ans après, cette terre m'appartient parce qu'elle était à mon père. Elle était à son père. Son père, il avait des droits dessus parce qu'il a travaillé cette terre. Elle est plus à lui parce qu'il n'a pas travaillé.
Au film de prestige de Lautner de 72, on s'est permis d'associer une production très sociale que vous connaissez de très près, où on entend blé ou blé.
Alors le titre du film documentaire, c'est blé ou blé, ça veut dire peut-être bien en occitan. Et donc le film retrace l'installation des néo-ruraux. Donc
et là, en Ardèche. Il y a une contestation profonde, pas seulement de la place du travail dans la vie, mais de la place de la propriété dans le territoire.
Oui, alors la propriété, c'est vrai que c'est vraiment un point d'achoppement dans les relations entre la population locale et les néo-ruraux, car les néo-ruraux se sont installés dans des zones qui était très désertifiée depuis longtemps, en achetant pour une bouchée de pain, en achetant ou en squattant, même souvent, donc des fermes complètement délabrées, et puis en défrichant donc des terres qui étaient pleines de ronces. Et évidemment, pour eux, ils veulent faire en sorte que la terre, évidemment, appartienne à ceux qui la travaillent. Donc il y a tout un combat qui est mené notamment par le chef de la communauté de Rochebesse, Pierre Conti, pour faire évoluer le droit de propriété. Parce que très souvent, ils doivent se contenter de beaux verbaux qui ne leur permettent pas, par exemple, d'accéder à différentes aides allouées par les.
On ne va pas épiloguer sur le cas du charismatique voilà. Pierre Conti, parce que les gendarmes avaient des raisons voilà. De se méfier de lui. Un chapitre de votre livre, voilà. Retourné à la Terre, est consacré à cette affaire qui a défrayé la chronique en 1977. Non, restez sur cette idée. Celui qui travaille a le droit à la Terre. Elle est exprimée ici dans un chant autoproduit, un album autoproduit, un disque 33 tours qui appartient à la riche collection de Martin Penet. C'est signé René Daudan. C'est pas quelqu'un d'Ardèche, c'est un bourguignon. Il continue d'ailleurs à chanter en Bourgogne, en Ancile-Franc, aux Ruraleuses, etc. Bon, Stéphane Ronxin s'est permis d'habiller cette chanson revendicatrice à sa façon.
J'ai labouré, j'ai semé, j'ai coupé le grain, j'ai pétri le pain.
Et pourtant, nous n'avons toujours rien à manger.
Là, tu pas qu'un accord.
Que tu sois vigneron, que tu sois laboureur, tu peux dresser la tête et te sentir vainqueur. Le paysan de France n'aura plus de patron.
Je suis Coucou le Chambliot, j'ai fait tapage de vos joies, j'ai fait jardin de vos courages, je vais boire dans l'hiver, j'ai couché l'œuvre de vos hameaux. J'ai fait chanson de vos manteaux. Ouvrier de la terre, ouvrier du silence, j'entends vos lumières battre, des abeilles à vos coups. J'entends la chaleur étreindre, la cascade d'aiguillons à vos reins. J'ai crainte que mes paroles ne traînent au fond d'un tablier. J'ai crainte que mon cerveau ne verse vite à vos sillons. qu'un épi d'ombre ne m'évente, et redouble vos précautions. Ouvriers de la terre, ouvriers du silence, j'entends vos lumières battre, des abeilles à vos coups, j'entends la chaleur étreindre, la cascade d'aiguillons à vos reins.
Alors, qu'est-ce que t'en penses ?
Bien, c'est vraiment bien. Et puis, alors, la fin, c'est fort, quoi. Hein.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Non, ça laisse songeur.
Et tu vas voir l'impact sur les paysans. Tu seras étonné toi-même. C'est la première fois qu'on leur parle de leurs vrais problèmes, des choses qui les concernent.
Voilà, quand ça n'était pas René Daudan, c'était, choisi par notre réalisateur, des extraits du film Baba Cool. Nous parlons aujourd'hui des néo-ruraux. Catherine Rouvière a consacré un livre au sujet aux presses universitaires de Rennes. Daudan, il a continué à chanter et à cultiver. Certains de la première vague ont cultivé jusqu'au bout et travaillent encore pour certains. Pourtant, ce n'était pas très facile le premier hiver. Vous avez aussi été dans les archives du cabinet du préfet.
Effectivement, donc l'épreuve de l'hiver est redoutable pour les néo-ruraux. Et j'ai retrouvé, par exemple, dans les archives du cabinet du préfet, une lettre écrite par un couple de néo-ruraux avec de jeunes enfants qui étaient bloqués depuis une semaine par des congères à 1000 mètres d'altitude lors de l'hiver 70-71 qui a paralysé tout le sud-est de la France. Et le troupeau de chèvres, enfin, ils en étaient réduits, commençaient à en être réduits à devoir manger leur chèvre puisqu'ils n'avaient plus de nourriture. Et donc le mari a fait 8 kilomètres à pied pour aller poster une lettre au préfet, lettre que j'ai retrouvée donc dans ces archives.
Ceux qui s'accrochent vont peu à peu s'investir dans les structures locales. L'utopie se déplace.
Oui.
Certains vont devenir syndicalistes.
Oui.
Même à la FNSEA.
Oui, mais effectivement. Donc effectivement, à partir de la fin des années 70, on observe, il y a eu beaucoup de redéparts, hein, et on observe parmi ceux qui sont restés, justement, une évolution de leur situation, les enfants étant arrivés, ils recherchent une plus grande stabilité, davantage d'insertion, et ils rejoignent ainsi la deuxième vague néo-rurale arrivée à partir de 75, qui, elle, est beaucoup plus marquée par la thématique écologiste. On se rappelle que le premier candidat à l'élection présidentielle, donc en 74,
c'est René Dumont. Justement, donc, on s'en rappelle pas d'habitude.
C'est le début donc de timide de l'écologie politique, et c'est cette deuxième vague donc qui est davantage portée sur cette thématique et a davantage réfléchi à son projet d'installation, effectué des formations. Donc c'est quelque chose, une démarche beaucoup plus pensée. Et entre-temps, donc des formations se sont développées.
Pierre Mellet, que vous citez souvent, à La Boule, il a mis au point une exploitation de charcuterie sur le modèle corse un peu.
Oui, donc c'est... effectivement, élevage en plein air ou semi-plein air de cochons, ce qui ne se faisait pas localement. Donc là aussi, quand les pratiques apportées par les néo-ruraux diffèrent, ça crée aussi des incompréhensions, voire des tensions.
Oui, mais ça peut aussi,
donner
créer
des
fédérations et des rassemblements, voilà. Parce que voilà qu'il va se faire élire aux élections municipales. Pierre Mellet, au micro de Sylvie Andreu.
Alors je pense que vous serez quand même l'exemple de celui qui est parfaitement intégré au pays, puisque vous avez réussi à la fois dans la politique, vous êtes élu maire de La Boule, c'est ça ?
Oui.
Depuis 1983. Et puis vous avez bien réussi aussi dans vos affaires, vous avez une entreprise de salaison, c'est ça, une transformation de porc, c'est ça.
Une entreprise complètement intégrée verticalement, c'est-à-dire qu'on produit, on transforme, on vend tout. On devient des références, et ça, c'est le côté gênant de notre situation, là. Devenir une référence, mon Dieu.
Et ce qui s'est passé en 70 ici, ça serait possible aujourd'hui, ou c'est vraiment l'Ardèche aux Ardéchois ?
Ah, ce qui s'est passé en 70, ça serait beaucoup plus possible aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de frappadingues qui veulent s'installer comme nous. Parce qu'on a, plus particulièrement à La Boule, une volonté d'installer des gens, de faire venir des gens, parce qu'il y a quand même de la place. La commune se donne des moyens pour agir très efficacement dans ce sens-là. Et depuis qu'on a commencé ce genre d'action, on n'a personne à installer. Enfin, j'exagère un tout petit peu, parce qu'on a fait une installation l'an dernier, mais c'était un petit coup de chance et un petit miracle.
Eh bien non, Catherine Rouvière, parce que les installations ne vont plus se faire dans les nouvelles vagues qui vont venir, 75-85, 85-95, sur le modèle de l'agriculture pionnière. Non, ce sont souvent des citadins qui viennent exercer leur métier.
Oui, dans
la campagne.
Effectivement, dans une troisième vague, donc vers le milieu des années 80, on voit arriver à la campagne des gens qui viennent non pas pour l'agriculture genre de vie, mais pour la campagne cadre de vie, en exerçant donc leur métier dans ce cadre-là, plutôt que dans un cadre urbain. Mais ces gens-là partagent quand même un certain nombre de valeurs, de styles de vie aussi avec les vagues précédentes, les vagues néo-rurales précédentes. Donc, ce qui crée toute une société finalement beaucoup plus, qui devient de plus en plus diverse. Et on sort du face-à-face entre le hippie et le vieux paysan du coin. Et la société se complexifie considérablement.
Et donc, ça permet des recompositions et
voilà.
des alliances avec les syndicalistes, avec les aménageurs locaux, avec le conseiller général qu'on va accuser d'être un conseiller général pro-hippie, mais enfin qui se préoccupe du maintien de la population. Certains ont créé des entreprises aussi.
Oui, tout à fait.
De transformation, pas seulement du cochon,
de la laine. Voilà, donc par exemple, en Ardèche, la grande réussite, c'est l'entreprise Ardelaine, qui a reconstitué toute la filière laine après avoir donc sauvé une filature qui était en ruine en 75. Et donc, c'est devenu une activité prospère qui emploie 45 personnes avec deux musées, un restaurant.
La veuve de Pierre Mellet qui s'interroge souvent sur le bilan de 20 ou 30 ans d'installation, vous dites les apports ont été considérables.
Oui, les apports ont été importants en matière agricole, avec l'invention finalement d'un nouveau modèle d'agriculture qui intègre donc la transformation, la commercialisation, l'accueil, et qui permet donc grâce à des circuits courts finalement d'avoir une valeur ajoutée permettant de vivre. Et puis dans le domaine culturel, l'apport est très important dans le domaine culturel.
Et puis tout simplement dans le domaine démographique, vous citiez Rabhi installé dès 1961 dans le village de vos grands-parents d'ailleurs. Maintenant, sa fille et l'époux de sa fille animent le hameau des Buis, où il y a une ferme des enfants qui s'y visitent. Antoine Saxe pour Sur les Docks de France Culture. On ne sait pas qui est le plus débrouillé des deux enfants, Antoine Saxe ou bien le gamin guide.
Et alors, comment tu trouves ici? Tu te plais?
Ouais, c'est bien. C'est pas une école comme les autres, quoi. J'aime bien plein de choses. J'aime bien la guinguette qu'on a fait.
Pour danser?
La guinguette qu'on a fait.
Une guinguette, c'est pour quoi faire? C'est pour boire?
Une guinguette, bah oui, un peu, ouais. C'est pour les journées portes ouvertes quand il y a des gens qui visitent. Là, il y a le bac à sable, l'olivier. Là, il y a l'escalier pour aller dans la classe des grands. Et le petit chemin pour aller dans la classe des petits. Faut aller plus vers là. C'est vers les animaux, on a des cochons, des chèvres et plein d'autres choses. Je sais pas si vous savez, c'est une école ferme ici. Et il y a des barrières parce que c'est plus l'école quand on a fait des barrières, c'est la forêt. On peut jouer dans la forêt si on n'a pas un point rouge. Une étiquette rouge, si tu veux.
Qu'on puisse vous retrouver facilement parmi les sangliers.
Bah, en fait, on a un point vert quand on a bien fait les choses. On a un point orange quand on est averti que c'est pas très bien fait. On a un point rouge quand on peut plus le faire et il faut aller au conseil d'enfants pour se langer le point rouge.
Ah, il y a tout de même des étiquettes dans cette école Montessori. Oui. Les enfants, c'est un enjeu crucial et l'école aussi.
Alors oui, effectivement, l'école, l'enseignement était vraiment un enjeu fondamental dans la perspective où on cherche donc à transformer la société. Évidemment, ça commence par les enfants. Dans la première vague, beaucoup de néo-ruraux ont refusé la scolarisation de leurs enfants dans les écoles publiques. Mais dès la fin des années 70, avec le désir de s'insérer, justement, ils envoient leurs enfants à l'école communale. Et là aussi, évidemment, il y a des différences de comportement entre enfants de néo-ruraux et peut-être parfois une certaine stigmatisation.
Pour être complet quand même, Catherine Rouvière, il faudrait parler d'autres enfants. ceux des enfants de RMIs, de titulaires du RSA, qui forment l'avant-dernière génération de néo-ruraux.
Oui.
Et ce sont souvent d'ailleurs des enfants de femmes isolées. Alors là, de nouveau, des affrontements psychologiques peuvent se produire. On dit, on veut pas que tel village devienne le 9-3 de l'Ardèche, vous comprenez, avec tous ces cas sociaux.
Oui, effectivement, on a vu arriver alors une vague à partir des années 95, très différente des précédentes. Une vague de personnes en forte précarité économique, sociale, notamment composée de femmes seules avec enfants, et qui espèrent vivre avec plus de solidarité et à moindre frais à la campagne, en bénéficiant de systèmes tels que les systèmes d'échange locaux, qui permettent, et puis la culture d'un jardin, qui permettent de mieux s'en sortir.
Le sujet s'est feuilleté, hein, parce qu'il y a une toute dernière vague de radicaux de chez Radical.
Voilà. Alors, effectivement,
ils sont en train de mettre en accusation les néo-ruraux installés parce que ils ne sont pas assez décroissants.
Voilà, dernière vague en date, donc remonte au milieu des années 2000, avec d'un côté effectivement de ceux qu'on peut appeler les réfugiés de la décroissance, qui sont sensibles à toutes les thématiques altermondialistes, qui sont assez radicaux, qui vivent souvent donc dans des habitats légers mobiles tels que les tipis, les yourtes, les cabanes. Et qui ont un projet effectivement de contestation politique qui rejoindrait un peu dans leur radicalité ceux de la première vague post-68 Arde.
Avec chez les élus, certains élus, une volonté de décabanisation,
voilà,
qui rappelle la lutte contre les hippies des années 70. C'est très stratifié, c'est très brouillé. Il y a une tendance lourde maintenant, c'est l'agriculture urbaine. Vous savez, on va faire de la permaculture sur ces balcon,
on
va végétaliser les tours, et on va rentabiliser les terrasses. Mais alors, le retour à la terre dans ces conditions-là, c'est pas exactement le retour tel que vous le concevez.
Alors, dans le retour à la terre, il y avait quand même aussi cette utopie de concilier à la campagne, dans un village, à la fois les côtés positifs de la ville et ceux de la campagne, de créer un espace finalement qui serait mi-ville, mi-campagne. Et à ce moment-là, les catégories de ville et de campagne sont à revisiter.
D'accord. Et quand on végétalisera la tour Montparnasse, ce sera l'Ardèche à Paris.
Et donc maintenant, la campagne s'invite à la ville. Et c'est pour ça qu'il y a un espèce de brouillage de ces catégories de villes et de campagnes.
Merci à vous, Catherine Rouvière, retournée à la Terre aux presses universitaires de Rennes. L'émission a été préparée par Aline Canegilesco, Frédéric Martin, Franck Olivard. À la réalisation, je l'ai dit hélas, Stéphane Ronxin. Et à la technique, Michel Bézigian. Vous n'êtes pas très loin de notre thème, sauf que vous posez des questions radicales, cher Mathieu Vidard.
Oui, on va se mettre tout simplement dans la peau des plantes pour savoir ce qu'elles pensent, par exemple.
Ouais. Déjà qu'on se met dans la tête des animaux et que l'élevage s'en trouve menacé. Maintenant, à quoi pensent les plantes? Ce sera dans un instant.